cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?
Salade de fruits, joli, joli, joli.
La chronique diététique d'Anne-Claude, diététicienne épicurienne. Anne, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui, pour moi, est le plus grand. Celui sans lequel je ne serais pas grand-chose. Le plus pratique, le plus, pour moi, le plus gustativement parlant incroyable. Il se marie avec tout.
Avec tout.
Et c'est facile à faire. Ce sont bien sûr les pâtes. Et
oui, tout à fait. Les pâtes qu'on va retrouver toutes les semaines à notre table dans la plupart des familles et qui sont délicieuses sous terre. Tellement de formes différentes.
Les pâtes qui sont connues en Italie, mais c'est pas vraiment de là qu'elles viennent, hein.
Alors, il y a une légende qui raconte que ce serait Marco Polo qui les aurait découvertes et ramenées de Chine. Ce serait effectivement une légende, peut-être même créée par un publicitaire au XXe siècle. J'ai trouvé un très chouette article de Futura Science. On vous mettra le lien si vous voulez aller le lire en intégralité tout en bas en dessous du podcast. Et là, je vais simplement vous en lire l'introduction. Le plat de nouilles le plus ancien découvert en 2002 est chinois. Il a 4000 ans. Des recettes de pâtes ont été déchiffrées dans un traité culinaire babylonien datant de 1700 avant Jésus-Christ. Les Grecs, les Romains, les Arabes consomment des pâtes bien avant Marco Polo et son voyage en Chine à la fin du XIIIe siècle. Donc en fait, les pâtes, il y en a partout et depuis fort, fort, fort longtemps et même dans la Rome antique. Donc Marco Polo n'a rien ramené, ça existait déjà sur place depuis un moment.
Voilà une base commune qui construit notre identité européenne, un langage commun à nous tous. Anne, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui tu me dises que les pâtes, ça a bien des super pouvoirs, s'il te plaît.
Plein, 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 Charlotte.
Mais voilà, rassurée.
Bon alors déjà, le super pouvoir évitant, c'est qu'elles sont nutritives, ça nourrit les pâtes parce que c'est riche en glucides, donc ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de carburant. Voilà. Ça va apporter aussi un petit peu de protéines. On le sait, les pâtes contiennent du gluten. Donc le gluten est une protéine qui est, elle aussi, nutritive et qui va être rassasiante chez les personnes, en tout cas chez qui ça se passe bien. En diététique chinoise, on va parler du blé d'une manière générale. Le blé a une nature fraîche. Nature fraîche, ça veut dire qu'il ramène de la fraîcheur dans le corps. Donc là, il va falloir être vigilant chez certaines personnes. Et il a une saveur douce. Saveur douce, c'est une saveur de tonification. Ça veut dire qu'il va aider la rate à fabriquer l'énergie et le sang. Donc, à nouveau, on est sur quelque chose de nutritif. On dit que le blé nourrit le cœur, calme le chêne. Alors, le cœur, c'est la fonction énergétique cœur. On dit que c'est le siège du chêne, c'est-à-dire de l'esprit. Donc, quand on a l'esprit qui part plaf, 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 un petit peu dans tous les sens, et ben consommer du blé, en tout cas, en diététique chinoise, on recommande la consommation de blé pour calmer l'esprit. Donc, le blé va être recommandé notamment pour traiter l'insomnie, la dépression et les palpitations. On dit qu'il élimine l'agitation et il faut faire attention toutefois, parce que le blé est la céréale la plus humidifiante, on disait qu'elle était de nature fraîche, ça va favoriser la rétention des liquides. Donc, on va avoir une vigilance en cas de mucosité, c'est-à-dire, tu sais, par exemple, quand on a le nez pris plein de jus, la gorge prise pleine de mucosité, chez certaines personnes, de se passer de blé, donc de pâtes, sur la période pendant laquelle on va essayer de se débarrasser des mucosités, ça va être intéressant. Et on rappelle que pour se débarrasser des mucosités, du coup, on se calme sur les pâtes, on va se calmer, pareil, en énergétique chinoise sur les produits laitiers, et par contre on mange du navet, du navet, du navet. Et là t'es beaucoup moins contente.
Et là ça ne me réjouit pas vraiment parce que j'ai souvent des sinusites justement et j'ai entendu parler de ça, mais le recours au navet est quand même une épreuve.
Mais tu veux guérir ou tu veux pas guérir?
Oui, voilà. Mais là tout va bien, donc c'est formidable. Et moi qui ai tout le temps envie de pâtes, qu'est-ce que ça veut dire au niveau symbolique?
Alors c'est drôlement intéressant, et là on va croiser la symbolique de Christiane Berléand et la symbolique d'Olivier Souli. Je parle beaucoup, c'est les deux sources que je connais le mieux en symbolique des aliments. Donc Christiane Berléand, dans la symbolique des aliments, nous dit: les pâtes alimentaires représentent le désir inconscient que l'on a de jouir sortir de son propre « je ». L'homme devra encore faire, ou la femme, devra encore faire un effort pour améliorer la relation qu'il a avec son propre « je ». Il éprouve encore une trop grande fragilité, comme s'il était froidement livré à son « moi », dont il ressent trop peu la chaleur. Les spaghettis et les petites spirales bouillies symbolisent le désir de se savoir « choyé ». Il signifie à l'homme qu'il ne doit pas considérer son « je » comme étant faible, sans défense et tremblant à cause d'un manque de chaleur, d'autoprotection et de résistance. Ils incitent l'homme à prendre conscience de la chaleur et de la richesse qui réside en son être. Olivier Soulier, dans le séminaire sur le sens des désirs alimentaires, nous disait « si j'ai vraiment une très 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 forte attirance pour les pâtes, c'est que j'ai besoin de me combler de papa ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vois un lien, en fait, entre la symbolique de Christiane Berléand et le besoin de se combler de papa. Je suis allée voir du côté de la fonction paternelle en psychologie, et je vous donnerai la référence d'une page que j'ai consultée pour ça sur un site qui s'appelle Psychologica. La fonction paternelle, ça consiste à faire tiers. Le père, par rapport au couple mère-enfant, est un tiers. Il introduit de la séparation, de la différenciation. Et comme ça, il permet de structurer psychiquement et de manière équilibrée les enfants. C'est en sortant du champ maternel que l'enfant pourra aller prendre sa place d'homme ou de femme dans le social. Donc, comme l'enfant et la mère ne sont pas en réalité tout l'un pour l'autre, c'est ce que l'on ressent, c'est ce qu'on le croit au début, hein, surtout l'enfant en construction, chacun possède en réalité son propre je. Donc il y a quelque chose qui se tricote autour de ça quand je suis en quête de pâtes, possiblement. Surtout quand j'ai vraiment une très 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 forte attirance. Voilà, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont des grands amateurs de pâtes, qui en consomment quotidiennement, et il peut se tricoter effectivement quelque chose de cette nature.
Très bien, voilà qui donne à réfléchir. On a du travail hein, à faire d'ici la prochaine chronique pour faire un peu une petite introspection personnelle.
Si on a envie, après hein, on peut aussi manger des pâtes.
Ouais, mais c'est l'occasion. l'avantage des pâtes, c'est qu'on en trouve de toutes sortes, sous toutes ses formes,
mais
plein
oui.
de formes différentes.
Oh oui, alors on s'ennuie pas avec les pâtes parce qu'il y a plein de graines, de céréales qui permettent d'en fabriquer. Le blé, évidemment, on vient d'en parler. Le sarrasin aussi, que ce soit les merveilleuses nouilles soba, moi je suis fan du sarrasin, on en a déjà parlé, qu'on va trouver au Japon, ou même nos crozets, évidemment les crozets qui peuvent être 100% blé, 100% sarrasin, ou un mélange blé-sarrasin. Là on lit que, où est-ce que j'ai lu ça ? Je l'ai lu sur le site que je vous mets en, sur l'article de Futura Science, vous pourrez relire l'intégralité de l'article, où on lit que dans la France méditerranéenne du 14e siècle, il existe plusieurs pâtes dont les fidio, qui sont des pâtes laminées, et les crozets, sorte de coquillette qui serait typiquement provençaux. Donc voilà, nos crozets dateraient au moins du 14e siècle. On va faire des nouilles de riz aussi, des pâtes de riz ou des vermicelles de riz, des vermicelles de pois. Donc il y en a de toute nature différente. Et puis il y en a de toute forme aussi. Et là, je suis allée dans le livre On va déguster l'Italie de François-Régis Goudry et compagnie. Il est fantastique ce livre parce que c'est un inventaire de la cuisine italienne et c'est juste splendide. Et donc on va classer les pâtes en 5 sortes. La pasta corta, c'est-à-dire les pâtes courtes, les fusilli, les penne, les farfalle. Alors farfalle en italien ça veut dire papillon, donc tu sais ce sont les petites pâtes papillons qui sont trop cool. La pasta lunga, c'est-à-dire les spaghettis, les linguine, les tagliatelle. La pasta ripiena, donc les pâtes pleines, remplies, comme les raviolis, les tortellini. Alors sur le blog des mangeurs libres, et là on va vous mettre plein de liens en dessous du podcast, vous allez par exemple pouvoir trouver, si vous avez décidé de ne pas les acheter en boîte par exemple, une recette de raviolis à la betterave, à la ricotte et à la cardamome de la forêt. Je l'évoquais dans la chronique sur la fraise, mais on va bientôt y consacrer une chronique à la cardamome parce que c'est trop merveilleux. Et puis des raviolis façon dim sum à la volaille. Donc ce sont des raviolis chinois qui sont fermés différemment. Ce ne sont pas deux ronds de pâte avec une farce et qu'on va presser l'un sur l'autre. Là, on va faire une petite bourse toute mignonne qu'on va cuire traditionnellement à la vapeur. On va trouver aussi la pasta da minestra. Alors la minestra, c'est la soupe en morceaux. C'est pas une soupe fluide, c'est une soupe avec des morceaux dedans, mais elle est pas encore aussi consistante que la. Alors attends, t'as la zuppa qui est la soupe fluide, la minestra qui est la soupe en petits morceaux pas trop consistante, et tu as le minestrone qui est la soupe très consistante avec les haricots. En plus, c'est vraiment la soupe repas. Donc là, pour la minestra, on va avoir les orzo. Les orzo, tu sais, c'est comme des grains d'orge. Ce sont ces petites pâtes en forme de langue d'oiseau aussi, par exemple. On va avoir aussi les stelline, ces toutes petites étoiles trop adorables, notamment. Ah bah tiens, ça me fait penser que avec les stelline, Il faudra que je vous ajoute le lien sous le podcast. J'avais fait une petite salade adorable avec, avec du concombre même peut-être que j'avais fait sauter. Il faudra que je vous retrouve ça, je vous mettrai le lien également. On a la pasta da forno pour terminer. Donc, ce sont celles qui passent au four et que l'on gratine, comme les lasagnes, les conchiglioni, ces espèces d'énormes escargots, les cannelloni, évidemment. Alors, en parlant des conchiglioni, vous allez trouver sur le blog un gratin de conchiglioni au beaufort, à la ricotte, brocoli et petits pois. C'est super frais. Donc, on a du fromage, on a du lacté, on a de la pâte. Et en même temps, vous allez voir, pour le printemps, c'est juste trop génial parce que c'est hyper digeste. Alors, on va continuer avec d'autres pâtes que j'aime beaucoup, qui sont les spätzle. Alors, au moment où j'ai composé la chronique, je me disais, mais est-ce que les spätzle, on les considère vraiment comme des pâtes ? Oui, ce sont bien des pâtes rustiques. Toujours dans l'article de Futura Science, on va lire « La plus ancienne recette de pâtes se trouve dans un traité culinaire mésopotamien datant de 1700 avant Jésus-Christ. Ce qui ne doit pas surprendre puisque c'est en Mésopotamie qu'a débuté la culture du blé vers 8000 avant Jésus-Christ. Les Mésopotamiens consomment des risnatu. Pardon, j'ai mis l'accent italien, mais ça doit pas être avec l'accent italien. Donc des risnatu, pâtes réalisées avec de la farine de blé et de l'eau, râpées ou émiettées dans un liquide bouillant. Les pâtes râpées sont la plus ancienne forme connue. En Italie, il existe un type de pâte similaire, la pasta grattugiata. En Alsace, on réalise les spätzle de cette manière.
Incroyable, 1700 avant Jésus-Christ.
Tu te rends compte un petit peu?
Mais là, Marco Polo peut aller se rhabiller.
Voilà, les pâtes n'étaient pas, elles n'étaient pas tombées de la dernière charrette de pommes à l'époque. Donc les spätzle, et moi je fonctionne par lubie. Il y a des moments où je mange que des spätzle et où je vais explorer plein de choses. Et donc il y a 4 ans à peu près, c'était ma lubie spätzle. Donc vous avez trouvé une jolie recette de spätzle et bouillon d'herbe. J'avais dû les parfumer avec de l'ail des ours. Ça tombe bien pour le printemps.
Voilà pour toutes ces formes de pâtes. Il y en a plein que je ne connais pas et je vais m'empresser de les essayer. Côté recettes, on a vraiment des recettes très classiques, hein, les recettes un peu traditionnelles qui sont faciles à réaliser, mais qu'on peut se plaire ici à les rappeler.
Mais évidemment, alors certainement la plus simple et la plus géniale, c'est aglio e olio. Ça veut dire ail et huile d'olive. Juste des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, c'est magique, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors après, on peut, hein, voilà, et ça reste très très bon. On peut faire les spaghettis al pomodoro, par exemple, c'est-à-dire ail, tomate, basilic, huile d'olive. Évidemment, on va faire les pâtes alla carbonara. Alors, carbonara, en Italie, c'est du guanciale, c'est-à-dire de la joue de cochon, du pecorino, du poivre, de l'œuf. Pas de crème.
Le pecorino ?
Le pecorino, c'est un fromage différent du parmesan. Alors, dans le livre « On va déguster l'Italie » dont je vous parlais tout à l'heure, on nous dit que cette recette alla carbonara, c'est une recette de la reconstruction. La carbonara est le plat caractéristique des années d'après-guerre à Rome, lorsque restrictions de nourriture et pénurie d'argent s'estompent peu à peu. Il n'y a pas de mention de recette de carbonara avant les années 50. Il précise aussi, ça c'est drôlement intéressant, que l'invention de cette recette traditionnelle, donc invention d'une recette traditionnelle, et la fixation de sa composition sont très récentes. Elles datent du début des années 90. Et donc ça, c'est un phénomène qui est analysé par des sociologues, en l'occurrence par Hobsbaw et Ranger. Une tradition inventée au nom de valeurs partagées et d'un passé fantasmé est intégrée par un groupe sur un territoire donné dès lors que chacun est persuadé qu'il s'agit de la version originale, ancienne, traditionnelle. Je trouve ça assez extraordinaire pour cette recette de carbonara que nous, on consomme à la crème, avec du lard, etc.
Comme quoi, une recette peut représenter tellement de choses, finalement.
Oui, oui absolument. D'un point de vue culturel, c'est très puissant. C'est aussi puissant que des chansons traditionnelles, que des œuvres d'art, etc. Donc en plus, on les incorpore. Donc oui, c'est puissantissime.
Il y a les pâtes à la carbonara, mais il y a la sauce bolognaise.
Évidemment, donc on dit le ragout bolognaise.
C'est vachement mieux dit. Hein.
Je ne suis pas sûre de mon accent. Je crois me souvenir de ma pauvre petite année d'italien qu'il faut mettre l'accent tonique sur l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière syllabe des mots. Et je pense que je me rate lamentablement depuis tout à l'heure, mais tant pis, je vous prie de me pardonner. Donc évidemment, le ragout bolognaise avec bœuf et avec tomate. On va aussi beaucoup rencontrer les pénultièmes all'arrabbiata, donc quelque chose, on sent dans all'arrabbiata, il y a quelque chose de très piquant, de très pimenté, évidemment. On a tomate et piment dans cette sauce. On va aussi rencontrer la sauce alla puttanesca, donc là, on va mettre tomate, capre, piment, olive et anchois. Et une recette qui est peut-être moins connue, mais que j'apprécie énormément, qui est pasta con le sarde. Les sarde, c'est les sardines. On va associer avec du fenouil. Alors, en Italie, on trouve du fenouil sauvage qui est une splendeur, qui a un parfum profond, subtil, qui est magnifique. On va y ajouter des tomates, des raisins secs et des pignons. Et c'est merveilleux.
Voilà pour les classiques des classiques, hein, des recettes qu'on connaît plus ou moins. mais nous, ce qu'on veut savoir, Anne, c'est tes recettes à toi.
Alors, celle que vous allez pouvoir retrouver sur le blog des Mangeurs Libres. Probablement ma préférée. Moi, j'adore faire les pâtes fraîches maison. Donc, j'ai un petit laminoir qui est bien pratique parce que si on y va au rouleau à pâtisserie, elles sont jamais suffisamment fines. C'est épais en bouche, c'est farineux, c'est désagréable. Donc, un petit laminoir à pâtes. Et on fait la pasta fresca et de tout le blog, c'est probablement la recette que je préfère. Et pourtant, c'est simple. Ce sont des pâtes fraîches, parfumées à l'essence de citron, que j'associe avec des brocolis, de la crème et du poivre.
Dans la pâte elle-même ?
Non. Là, tu as juste les pâtes qui sont parfumées à l'essence de citron. Et à côté de ça, je fais mes petites fleurettes de brocolis vapeur. J'arrose avec une sauce crème poivrée au jus de citron. Et tu vois, tu as cette pâte merveilleuse de saveur parce que fraîche et en plus tu as une digestibilité qui est extraordinaire et à côté de ça tu as le vert pimpant des brocolis, le blanc onctueux de la crème, c'est juste magique. Je parsème avec des petites graines de tournesol parce que à l'heure actuelle c'est encore moins cher que les pignons qui seraient pourtant divins, un petit peu toastés avec cette recette, mais voilà. Donc, on a déjà eu l'occasion de parler recettes élaborées, cuisine simple. En fait, c'est tellement bon quand c'est simple. Tu vois, on parlait de alio et olio. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. À un moment donné, se poser devant une assiette de pâtes, quand les ingrédients sont sublimes, bah, c'est magique. Et les propriétés sont à la fois nutritives. Avec une bonne huile d'olive, tu as plein de propriétés médicinales aussi. Donc, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bon au palais, que c'est pas bon pour le corps. Voilà, donc vraiment, pas de scrupules. Alors, moi, j'aime bien les pâtes en salade aussi. Pour le syndicat du Beaufort, j'avais créé une recette de pâtes torsettes complètes en salade avec une sauce crémeuse au Beaufort et des gros éclats de noisettes, des belles feuilles de jeunes pousses d'épinards également pour amener de la couleur. Je m'étais amusée à faire des coquillettes façon risotto en 5 couleurs. Donc, les coquillettes, au lieu de les cuire dans un grand volume d'eau bouillante, ben, j'avais rajouté le bouillon par-dessus pour qu'elles développent un peu plus d'amidon et d'onctuosité. Donc, c'est sympa. Et 5 couleurs, c'était sur le principe de l'énergie dite chinoise, donc 5 couleurs, une pour la fonction de chacun des 5 organes, le vert pour le foie, le rouge pour le cœur, le noir pour le rein, etc. Donc j'avais associé 5 légumes pour faire ce petit risotto. Et puis enfin, on parlait de recettes décomplexées. Quand il y a un reste de coquillettes, parce que ben, on a fait tomber le paquet dans la casserole, ça arrive. Et ben avec ce petit reste de coquillettes qu'on veut pas manger encore pendant des jours sous cette forme, et ben on peut faire des petits cakes zéro gaspille avec les pâtes qui restent en faisant un petit mélange œuf crème par exemple en y incorporant les coquillettes, des petits morceaux de jambon. On passe ça au four, on y fait gratiner et c'est trop sympa.
Formidable, voilà une belle chronique dédiée aux pâtes, merci Anne. Ça aurait valu pour moi de célébrer la centième chronique avec cet aliment, mais tu viens de le faire et ça c'est formidable. J'imagine que les pâtes, on peut aussi les accommoder avec des courgettes, mais ça, les courgettes, on en parle la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine à vous sur Radio Alto 94.8 et à la semaine prochaine, Anne.
Avec bonheur, toute belle semaine à vous.
C'était les chroniques « Y a-t-il un pilote dans l'assiette ?» La chronique diététique d'Anne-Claude, diététicienne, épicurienne.